I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Sarah Dion, prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric, réalisation Thomas Beau, autour de moi, Philippe Chevillier, Grégoire Leménager, Laurent Nunez, pour parler ensemble de Trois fois la fin du monde, Sophie Livry, aux éditions Noir sur Blanc, et Notabilia. Le Mars Club de Rachel Kochner chez Stock, 2m10 de Jean Asvel chez Gallimard. Et puis Grégoire le ménager nous expliquera pourquoi son cœur bat pour les chroniques de Floréal de Louis Guillou au Héros Limite. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapdo qui ressort en version restaurée dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau livre de Sophie Livry, « Trois fois la fin du monde », publié chez Notabilia, noir sur blanc. Un écrivain qui poursuit une œuvre que je trouve passionnante, avec un objectif assez fou, mais quand même le seul qui vaille raconter notre monde. Elle le fait cette fois dans un roman survivaliste, comme on dit, en suivant un ancien détenu, enfin un détenu qui va ensuite réchapper à une catastrophe nucléaire et qui va s'inventer une nouvelle vie dans la zone interdite. On a donc du polar, de l'élégie, du conte philosophique avec Sophie Livry. Ils ont tué mon frère. Ils l'ont tué devant la bijouterie parce qu'il portait une arme qu'il leur tirait dessus. Ils n'ont pas fait les sommations réglementaires. J'ai répété ça pendant toute la garde à vue. Vous n'avez pas fait les trois sommations, salopards, crevards, assassins. Les flics ne me touchent pas. À quoi bon? Ils savent que je vais en prendre pour 20 ans pour complicité. Moi, j'attendais dans la voiture volée. Quand j'ai vu la bleusaille, il était trop tard pour démarrer. Ils se sont jetés sur moi, m'ont plaqué à terre. C'est de là que j'ai vu la scène. Rien de pire ne pouvait m'arriver. Tonio tué sous mes yeux. Mais pourquoi ce con a-t-il fait feu? Il était mon dernier lien, ma dernière famille. Notre mère est morte quand on avait 20 ans, on n'a jamais eu de père. Tonio assassiné, je suis désormais seul sur terre, je n'ai plus d'amis. Tous se sont détournés de moi, mis d'amante. J'étais à ce moment-là célibataire, je n'ai plus qu'un immense chagrin qui me déchire, me révolte. J'en veux à mort aux flics, je m'en veux à moi aussi. J'aurais dû empêcher Tonio de faire cette connerie. J'étais sûr que ce braquage était une mauvaise idée, qu'il allait à sa perte. Mais comment est-il fait, celui qui laisserait perdre son frère sans prendre le risque de se perdre pour lui? En ces temps-là, il y avait des frères, on se rendait des services et il y avait des hommes pour vous punir. Voilà pourquoi je me retrouve un soir devant la porte de la prison. C'est le début de « Trois fois la fin du monde », tout simplement, que je viens de lire. Et c'est Philippe Chevillier qui commence à nous en parler. Ah, vous êtes surpris tous, hein, parce que j'ai changé les règles ce soir. Eh ben oui, c'est parce que c'est pas parce que vous l'avez proposé, Laurent Nunez, que vous vous parlerez en premier. Ce soir, tout change.
Tout change.
Philippe Chevillier.
Alors moi, j'ai moins la connaissance de l'œuvre de Sophie Livry. Donc,
elle n'est pas imposante pour l'instant,
non, nombre de volumes. Non, quand même, il y a quelques
volume,
livres.
J'ai dit.
Oui. Il y a quelques livres. Et bon, moi j'ai... Non, j'ai un avis assez partagé, c'est-à-dire que au départ, d'abord j'ai toujours un peu une méfiance justement sur les romans survivalistes, j'ai toujours un petit peu peur de ces romans. Alors au début, j'ai trouvé que la première partie était en fait assez convenu parce que la petite intrigue policière, le passage en prison, ça m'a rappelé beaucoup de livres autres sur le sujet. Je trouve que le personnage était un petit peu à la fois trop donc Joseph Kamal, un Joseph K qui n'est pas le héros du procès, mais qui est un mélange un peu, qui serait un peu une Kaira et qui serait, mais en même temps un personnage un peu aussi en dehors de tout contexte. Je comprends bien ce qu'elle veut faire avec ce personnage un peu flottant. J'étais intéressé parce que je trouvais qu'il y avait une belle écriture, mais pas passionné, et je me disais, bon, c'est un peu convenu. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'il y a l'explosion nucléaire, il y a cette deuxième partie où il se retrouve donc seul dans un endroit interdit, comme vous disiez. Et là, on retrouve une atmosphère de conte avec un personnage. Et là, il y a une certaine jubilation à le voir découvrir tout d'un coup une vie en solitaire, redécouvrir la nature qui est restée intact. Lui, il survit, il sait pas trop pourquoi, il a échappé avec quelques-uns à l'accident. Et il va tout d'un coup retrouver des réflexes un peu primitifs. Il va avoir des amis, hein. C'est un mouton qui est charmant, un chat aussi. Cette façon aussi de visiter les maisons, de visiter les supermarchés pour vivre et puis de réapprendre. Tout d'un coup, moi j'ai été pris par ce moment un peu élégiaque, assez poétique. Et à la fin, j'aime bien le fait qu'on reste sur une fin assez ouverte. Donc c'est un livre qui m'a un peu intrigué parce que j'étais à la fois séduit et en même temps j'ai trouvé que c'était parfois un peu convenu. Donc je suis entre deux et j'attends avec impatience de savoir ce que pensent mes amis.
Alors, est-ce que c'est votre ami Laurent Nunez? Je ne sais pas. En tout cas, c'est lui qui a la parole maintenant.
Non, il n'y a pas d'amis ici. je trouve Philippe un peu chafouin sur ce sujet.
On salue Elisabeth Philippe.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une sorte
d'un clin d'œil.
C'est une histoire. Vous savez, il y a des petits livres. C'est un petit livre, en fait. Ça fait 230 pages. C'est pas énorme. Dans cette rentrée où les livres m'avaient l'air un peu plus gros. C'est un petit livre, en fait, que j'aime. Que j'ai aimé lire parce qu'en fait on y repense après, et ça c'est pour moi c'est un très bon signe quand une histoire ensuite on y repense et on se demande ce que ça veut dire. C'est plutôt pas mal. C'est l'histoire de quoi? En effet, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères, en tout cas où Joseph et son frère, son frère qui a disparu, qui était tout ce qu'avait Joseph. Et Joseph se retrouve dans cette société qui est la nôtre, on va dire à peu près. Il se retrouve en prison avec des règles un peu brutales.
Légèrement.
Voilà, il faut pas faire confiance aux gens, qu'ils soient.
Là, on va reparler de prison tout à l'heure, mais voilà, celle de Joseph est pas mal. Hein.
Et en effet, donc ça commence comme Oz. C'est vrai, comme la série. Donc moi, j'étais vraiment passionné et j'ai pas trouvé de grands clichés. Peut-être là, tout à l'heure, on en reparlera des clichés en prison, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Et tout d'un coup, c'est génial. Il lui arrive quelque chose. Il arrive la fin du monde. Le titre important, c'est trois fois la fin du monde. Mmh. Alors, selon que vous êtes levé de bonne humeur ou pas, selon que vous êtes optimiste ou pessimiste, vous entendez quoi? C'est trois fois la fin du monde ou trois fois la renaissance? Parce qu'à chaque fois, qu'il y a que ce monde s'écroule.
Deux fois, si on compte bien.
Alors, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, regardez, il y a vraiment marqué deux fois là sur mon cahier.
Oui, mais la nuit, il y a des gens qui viennent copier vos pages et me les fournissent ensuite.
Je pensais que c'était la bêtise de tomber sept fois, se relever huit. Mais cette fois, en effet, là, c'est tomber trois fois, se relever deux, en tout cas, parce que la fin est ouverte.
Est ouverte.
La fin, on se doute bien que ça relève. Et du coup, c'est ça.
Joseph
est en prison. C'est la fin du monde. Il s'est fait matraquer, attaquer. Il n'est rien. Et quelque chose va le sauver. La fin du monde. Tout d'un coup, une explosion va faire qu'il va rester un homme sur mille et il va être ce millième-là dans le coin, et il va s'enfuir, essayer de reconstruire sa vie tout seul. C'est clairement une relecture de Robinson Crusoe, mais en même temps, il faut le voir. C'est assez habile. Je veux dire, il y a pas du tout des clins d'œil qui est très appuyé. Et ça raconte encore donc cet homme qui essaye de se reconstruire cette fois tout seul. Il décide que tout seul, on va y arriver, parce qu'avec les autres, c'est pas possible. Et vous doutez bien qu'il va échouer tout seul. Donc du coup, ça ressemble, vous savez, je fais beaucoup de références, ça ressemble à Je suis une légende, qui était un film que moi j'adorais sur la solitude, la possibilité de la solitude.
Il y avait un chien, là c'est un chat.
Là c'est un chat, fine ou fine, ça dépend comment on prononce, et chocolat.
Le cochon.
Mouton.
Le mouton, je ne sais pas pourquoi je dis cochon.
Bon, l'accident nucléaire a peut-être changé les races. Mais en tout cas, voilà, ce qui est formidable, c'est...
Un coton.
Et on racontera pas quand a lieu la seconde fin du monde là-dedans, parce que c'est pas possible, mais sachez que c'est quand même très très fort. Moi, ça m'a ça m'a fait de la peine, cette fin du monde. Je trouve ça vraiment très bien. Elle arrive, Sophie Divry, avec trois fois rien, à montrer les problèmes de la société, à montrer comment qu'on peut s'attacher tout bêtement à des animaux. Vous savez, c'est marrant, il y a quelques semaines, il est sorti le disque de Sophie Calle sur Souris Calle, que divers interprètes ont fait sur son chat qui était mort. Et il y avait quelque chose là-dedans à la fois de drôle, oser faire un disque entier sur un animal qui est mort. Et là, ça reprend à peu près la même chose. Un animal, pour quelqu'un qui est tout seul, c'est le centre du monde. Et c'est raconté de manière tellement simple, tellement belle, que moi, vraiment, j'étais pris dans ce livre.
Alors, Grégoire, le ménager ne laisse rien transparaître de ce qu'il va dire à présent sur « Trois fois la fin du monde » de Sophie Divry. J'essaye de vous observer quand vos camarades parlent. Rien.
Mais non, rien, parce qu'il y a d'abord une campagne de diffamation qui a précédé cette émission en prétendant que j'étais chafouin, donc je ne voulais pas ni valider ni infirmer cette rumeur. Alors, Sophie Divry, moi ça fait longtemps que j'ai envie de la lire, j'ai toujours passé à côté de ses livres, donc là j'étais content de m'y mettre, de découvrir Sophie Divry. Tout ce que vous avez dit, c'est très bien. La prison, c'est pas si mal, moi je trouve, et notamment j'étais assez sensible au caractère très méthodique qu'elle a de décrire les lieux et de nous faire sentir l'odeur absolument infecte qui règne dans ce lieu. Quelque chose d'assez claustrophobe, donc ça fonctionne pas mal. Ce qui en revanche plombe sérieusement le livre, elle a un style qui est fluide, qui est assez élégant. C'est les dialogues qui sont catastrophiques. Donc effectivement, du coup, la troisième partie où ce monsieur se retrouve tout seul, on est très soulagé parce qu'il n'a plus personne à qui parler. Donc il y a un peu de monologue intérieur, dans un style très oral et où elle essaye de faire du Louis Ferdinand Céline aujourd'hui. Mais quand même, dans la première partie, les dialogues en prison avec les racailles, là, c'est assez épouvantable, je trouve. Ça sonne assez faux. Mais la partie en prison est pas mal, le côté roman noir. Il y a vraiment une espèce de... Il y a un côté exercice de style aussi où elle va passer d'un genre à un autre, du roman noir au roman post-apocalyptique. Et c'est bien. Le titre, il est magnifique. Trois fois la fin du monde. La fin du monde, vu le monde dans lequel on se trouve, on en rêve tout le temps parce qu'on se dit que ça permettra de vivre autre chose. Et là, il y en a trois parce que donc il y a la prison. Après, il y en a une deuxième. Il sort de prison. Il rencontre un type quand même avec lequel il pourrait fonder une nouvelle société. Il se trouve que ça se passe mal pour des raisons que je ne vais pas détailler. Et du coup, il se retrouve tout seul. Et là, il y a la troisième partie qui effectivement est une espèce de longue parabole. Et alors là, ce type, surtout, qui sort d'un cauchemar quand même, parce que la prison était un cauchemar, il est dans une sorte de paradis quand même, parce que il est dans un cos magnifique. On rêve tous de vivre ça. Alors peut-être pas tout seul, peut-être avec une âme sœur, vivre la fin du monde avec une âme sœur.
Bon, ça change tout quand
mais
même.
Mais il trouve des bières, il trouve un radio cassette sur lequel il peut écouter du Bob Dylan, et il rencontre un chat et un mouton, donc il a un peu de compagnie quand même. Il arrive à fonder une famille avec ce chat. Enfin, c'est voilà, et tout ça l'entraîne. Et alors la dimension de parabole se révèle à la fin, je trouve, d'une manière assez jolie, là aussi pas trop appuyée, avec l'idée que ce type est Joseph et l'espèce humaine tout entière, écrit-elle, avec des petites réflexions sur le rapport qu'il y a entre l'homme et la nature, qui effectivement sont bien dans l'air du temps. Note, il y a un oiseau qui s'envole quand il arrive, elle note combien de siècles sans crime faudra-t-il pour que s'abolisse la peur de l'homme, ce que je trouve une belle manière de résumer aussi ce qu'a été le rapport de l'homme avec la nature pendant très longtemps. Et voilà, et puis il y a la question de la solitude qui affleure et puis qui se pose de manière de plus en plus nette, qui à la fois est une bénédiction parce que les hommes se sont tous comportés comme des salopards avec ce Joseph, et en même temps, les hommes lui manquent, et il y a une espèce de dialectique comme ça qui est jamais réglée, qui est jamais résolue. Donc c'est un joli.
C'est plutôt positif finalement.
C'est un joli petit roman.
Ce que vous venez de dire. Bon, alors évidemment, Laurent Nunez.
Je n'ai pas été ébloui.
Outré.
Par ailleurs, il y a des passages un peu ennuyeux quand il est tout seul. Il se passe pas grand-chose, effectivement.
C'est le problème de la solitude.
C'est le problème de la solitude. C'est très difficile à raconter, la solitude.
D'une part, je vous conseille La Condition Pavillonnaire, un autre roman de Sophie Divry, qui est un très beau livre. Vous auriez pu commencer par celui-ci. Bon, là, il se trouve que c'est trois fois la fin du monde. Moi, je suis assez admiratif. Et pendant que vous parliez, je regardais un peu les dialogues de cette première partie. je vois ce que vous voulez dire. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué. C'est un livre vraiment qui m'a totalement happé. Et j'avais vraiment envie toujours de savoir ce qui allait se passer. Donc, un tourneur de page, pour reprendre une expression de Philippe Chevillé, alors que c'est pas
très
forcément
longtemps que t'es pas utilisé.
Oui, mais c'est pour ça. Mais je la francise maladroitement. Je m'attendais pas vraiment à ce type de livre de sa part. En plus, bon, alors, il se trouve que c'est pas parce que j'ai lu ses livres précédents que je m'attendais pas forcément à cela. Et je trouve qu'elle ose des choses, qu'elle réussit beaucoup. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. J'aime bien les écrivains qui écrivent toujours le même livre. J'aime bien aussi ceux qui tentent des aventures. Et là, des aventures, il y en a un certain nombre. La partie polar est très étonnante. Et effectivement, bah, ça me paraît assez évident qu'elle a un don de la description, qui n'est pas un exercice d'abord facile, mais très répandu dans la littérature contemporaine française. Et je trouve qu'elle y excelle plutôt, parce que c'est la force de la description, ce sont des détails qui nous font ressentir, sentir, presque humer l'air qu'il hume Joseph K. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit, Joseph Kamal, c'est qu'il est très jeune, parce qu'il rentre très très jeune en prison, il y passe 3 ans, si je me souviens bien, je crois qu'il y a cette notation à un moment donné. Donc c'est aussi une sorte d'éveil à l'âge adulte, d'une certaine façon, parce qu'après, évidemment, il n'y a pas de référence particulière à son âge. Mais Laurent Nunez voulait peut-être déjà réagir aux propos des autres camarades.
Oui, en effet, mais Grégoire a entièrement raison sur ce qu'il dit sur le style des dialogues de la première partie. Mais,
moi, je l'ai fait exprès.
Mais moi, je pense que c'est fait exprès, parce que ça montre à quel point la société est en nous. Et quel point, au fur et à mesure qu'on est loin de la société disparaît de nos propos. Et Grégoire l'a dit, à la fin, lorsqu'il est tout seul, je trouve que le monologue devient plus poétique. D'ailleurs, son monologue doit se mélanger à son monologue à elle.
Oui, mais d'autant qu'on l'a pas dit, on passe du jeu au il. Hein, oui. Le narrateur,
oui, on comprend pas très bien
Joseph.
Pourquoi.
Hein, pour ce que vient de dire Laurent Nunez, me semble-t-il.
Et parce que moi, j'ai l'impression que c'est un livre. C'est le fantasme du chat comme objet littéraire. Vous savez, le chat, c'est ce qu'ont tous les écrivains dans l'image d'Épinal quand ils écrivent. Et du coup, je me suis demandé si...
C'est une bouteille de whisky, moi, mais bon.
Peut-être, ça dépend qu'il
est. Une tisane.
Le prix Nobel, mais... non?
Comment?
C'est pas le prix Nobel, le fantasme.
Mais du coup, je me demandais vraiment, cette solitude-là, d'être loin des hommes, d'être loin, d'être seul et d'écrire, c'est le fantasme qu'ont presque tous les écrivains. Je pensais, c'est ce que Blanchot appelle la chambre haute, ce qui est en-dessus de la société, ce qui nous embête pas, que tout le monde perçoit, même Derrida dans sa prison à Prague, quand il est enfermé à Prague et tout, il explique, il a un fantasme, il dit, enfin, je pourrais me mettre seul, personne ne va m'embêter, je pourrais écrire des livres.
Ouais.
Il y a une sorte de fantasme là-dedans. Bien c'est sûr. Peut-être pour ça que la première personne, la troisième personne, ce mélange, c'est-à-dire que elle et lui, c'est-à-dire l'autre Sophie et Joseph, se mélangent, parce que j'ai l'impression qu'elle parle aussi d'elle, de ce désir d'être seule dans la société pour pouvoir écrire, pouvoir forger quelque chose, même si on est interrompu par des catastrophes ou par des avions.
Philippe Chevillé.
Non, alors je reviens sur l'idée d'avoir été un peu chafouin, mais vraiment un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai pas ce que vous disiez sur le fait que ce livre laissait quand même des traces. Moi, ça m'a laissé des traces, notamment sur cette deuxième partie, puisque encore une fois, moi, ce qui me faisait très peur au départ dans le livre, c'était l'idée. Je pensais à Sur la route de McCarthy. Je me disais, oh là là, on va rentrer dans un truc post-apocalyptique vraiment basique. Et je trouve que elle négocie très très bien cette partie-là. Et moi, je me suis senti très bien dans cette partie solitaire, encore une fois avec ces animaux, où on est pas si seul que ça, parce que la nature, elle commence à l'imprégner, les ruisseaux, la façon dont ils se promènent, tout ça, c'est très très bien. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je trouve que le côté polar, justement, je le trouve assez faible. C'est-à-dire que je crois pas beaucoup à ce personnage de « Ah bah mon frère m'a demandé », alors évidemment on assiste son frère, et puis ça va un peu vite au début. Et du coup, on est entre deux eaux, on est dans le réalisme, c'est pareil en prison, et puis on l'est pas tout à fait. Donc j'étais, à la fois j'étais pris, parce qu'effectivement c'est un page-turner
en français. Il l'a dit.
mais en même temps, je me sentais pas, je me sentais très extérieur, et je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et quand on bascule, il suffit de l'explosion nucléaire, on bascule après, et là, vraiment, il se passe quelque chose, et du coup, ça me fait un petit peu oublier le début du livre, que je trouvais plus faible.
Alors, curieusement, ce livre-là m'a fait penser à Céline Minard, qui est quand même assez éloignée, mais entre Le Dernier Monde et donc je cherchais le titre, c'était Le Grand Jeu, qui était aussi une forme de roman survivaliste. Je trouve ça intéressant que ce soit deux femme encore jeune, française, qui s'empare de ces livres, on va dire, d'aventure, de polar, d'anticipation, de réinvention du monde. Je ne sais pas ce que ça dit, mais c'est vrai que j'ai pensé à cette autre auteure. Autre sentiment, peut-être, Grégoire Leménager, avant de conclure.
Non, mais j'ai l'impression que j'ai un peu tout dit. Non, cette histoire de la première et de la troisième personne,
ouais.
Pour moi, elle est assez symptomatique quand même d'une des limites du livre. C'est-à-dire que je suis très sensible à la beauté de certaines pages, à la poésie de certaines pages. Je suis plutôt sensible à la description très glauque de la prison. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des ambiances qui se dégagent de ce livre tout le temps. Et en même temps, il y a quelque chose de toujours, et je pense que c'est stylistique, de toujours un petit peu artificiel, de souvent un petit peu forcé. Et l'opposition du jeu et du heel me semble pas s'imposer. Je n'arrive pas très bien. Je suis pas très convaincu par l'explication du camarade Nunez. Je trouve que c'est assez symptomatique d'une forme de pause qu'il peut y avoir quand elle essaye de s'emparer de genres comme ça qui sont archi-codés, quoi.
Bon, allez voir et allez lire par vous-même. Trois fois la fin du monde de Sophie Livry chez Notabilia, l'édition Noir sur Blanc. Et à suivre dans la dispute, on va rester en prison avec le Mars Club de Rachel Kushner. D'autres formes de prison avec les 2m10 de Jean Hatzfeld. Et puis, prison ou pas, on le saura avec le coup de cœur de Grégoire Leménager pour Louis Guillou.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Et pour la suite de cette dispute littérature ce soir, c'est Rachel Kushner avec le Mars Club, publié en France chez Stock dans une traduction de Sylvie Schneider. À 50 ans, Rachel Kushner ne signe là que son troisième roman, mais quand même traduit en 17 langues. Elle a été visiteuse de prison pour femmes durant 3 ans. Elle a fait aussi un tour de certains pénitenciers pour femmes. Elle en a tiré ce nouveau roman. Donc après Cuba, premier livre, Les années de plomb en Italie, deuxième livre. C'est en prison, cette fois, que nous convie l'américaine. Dans les maisons d'arrêt et les prisons, il y en a certaines qui font la loi. Et cette femme qui réclamait le silence était de celle-là. Si on se plie à leurs règles, elles en inventent encore d'autres. Il faut toujours se battre, sinon on se retrouve sans rien. J'avais déjà appris à ne pas pleurer. Quand j'ai été arrêté il y a 2 ans, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ma vie était fichue, je le savais. La première nuit que j'ai passée en tôle, je ne cessais de me dire que tout ça n'était qu'un rêve, que j'allais bientôt me réveiller. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, je retrouvais le même matelas puant la pisse. J'entendais de nouveau les portes claquer, les cris de démence et les sirènes. La fille qui partageait ma cellule n'avait rien d'une démente, elle. Elle m'avait brutalement secoué pour obtenir mon attention. J'avais levé les yeux, alors elle s'était retournée, avait remonté sa chemise de prisonnière pour me montrer le tatouage au creux de ses reins, son label de femme de mauvaise vie. « Ferme ta putain de gueule !» Ça avait marché, j'avais retenu mes larmes. Un instant de douceur avec ma co-détenue à la maison d'arrêt du comté. Elle voulait m'aider. Tout le monde n'est pas capable de la fermer et moi, malgré mes efforts, je n'étais pas ma co-détenue, que j'ai fini d'ailleurs par considérer un peu comme une sainte. Pas à cause de son tatouage, mais de sa fidélité au commandement. Il ne s'agissait ni de sacrifice, ni de stoïcisme. Pas plus que de la nécessité de purger sa peine sans gémir ni se plaindre. Il s'agissait de dignité, d'être digne, enfermé dans une cage. Même entravé, même sous le coup d'une décharge de taser. Être quelqu'un à n'importe quel prix. J'y crois toujours. Et logiquement, c'est donc Grégoire Leménager qui a commencé à nous parler de Rachel Kushner et non pas Philippe Chevillier qui nous a proposé ce gros livre.
Oui, merci Philippe Chevillier de nous avoir proposé ce gros livre.
Celui-là, il fait bien la taille réglementaire de la rentrée, 450.
Oui, et puis moi je me disais, roman américain, précédé par des critiques absolument dithyrambiques venues d'Amérique principalement, mais aussi de confrères français, je me disais, ça va être un page-turner.
Et, deuxième blague.
Et ça n'en est... Non mais c'est un livre américain, donc on a le droit de le dire.
Non.
Et
c'est une radio française, monsieur.
Et ça n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été un peu désarçonné par ce livre qui nous plonge dans une prison, donc on y retourne dans la prison. Là, c'est une prison américaine. Il y a beaucoup de femmes. Il y a aussi des alors je sais plus s'ils sont traduits par transsexuels ou transgenres, mais
transgenres.
Voilà. Donc il y a des personnes qui se retrouvent là, qui se sentent pas complètement des femmes, mais qui se retrouvent là quand même. Enfin, il y a des situations un peu compliquées. C'est une narration qui est assez éclatée. Il y a beaucoup de flashbacks qui nous racontent la genèse de cette femme à San Francisco. Cette femme qui s'appelle Romy. Comme Romy Schneider, Romy Hall, qui a été incarcérée parce qu'elle a trucidé elle était stripteaseuse. Il y a un type qui l'a harcelée, on le comprend petit à petit, qui s'appelait Kurt Kennedy, je crois, ça. Et donc, elle a écopé de deux peines consécutives de réclusion à perpétuité, plus 6 ans. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais la fin du monde n'est pas près d'arriver pour elle, ou alors elle a...
Il faut vraiment une catastrophe nucléaire.
Voilà, elle doit souhaiter la catastrophe nucléaire, la malheureuse. Et le livre est fait de sa vie en prison, de ses flashbacks sur sa jeunesse assez paumée, où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup de petits boulots qui la conduisent dans cette boîte de striptease, tout est très très glauque, quoi. Les histoires les histoires de ces co-détenus sont extrêmement sordides aussi, évidemment. Alors, ce qui est tout ça d'un point de vue thématique, je trouve ça très intéressant. Je trouve que la grande force de Rachel Kushner, c'est l'empathie qu'elle a pour à peu près tous ces personnages. C'est-à-dire que il y a vraiment une humanité très très grande qui se dégage de tous ces personnages, même de certains matons, même de certains types assez peu recommandables que fréquentait la fille à l'époque où elle était dans sa boîte de striptease. Mais il y a quelque chose, il faut mettre en garde nos auditeurs, il y a quand même quelque chose de très très éclaté dans la narration qui, moi, m'a un peu déboussolé. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à identifier les personnages, à me dire, ah oui, ce personnage-là, c'est celui dont elle nous a parlé avant. La confusion qui est liée au cas des transgenres et ajoute quelque chose, parce qu'il y a des prénoms masculins et du coup on se souvient plus très bien, on se demande si le prénom masculin est celui d'un gardien ou celui d'une détenue qui en fait et voilà, donc c'est une prison dans laquelle je me suis un peu égaré quelquefois, et pour autant les pages, les chapitres, les histoires prises isolément sont souvent très fortes, très belles et très touchantes, quoi.
Philippe Chevillier, à présent, sur ce livre de Rachel Kushner.
Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas alors un tourneur de page pour le coup comme les autres, si je puis dire. D'ailleurs, c'était assez surprenant parce que j'ai repris le livre avant de venir et j'avais oublié qu'il y avait tant de personnages au fond. C'est vrai que le fil rouge, c'est cette femme qui a son drame. Elle n'a plus aucun espoir sauf celui, un petit moment, de retrouver la trace de son fils, parce qu'elle a quand même eu un enfant pendant qu'elle était stripteaseuse, et elle pense que sa mère va pouvoir s'en occuper, sauf que la mère disparaît à un moment donné et que du coup on sait plus ce que va devenir l'enfant. Donc c'est vraiment la seule chose qui la motive. Elle sait qu'elle a pas beaucoup d'espoir d'arriver à ses fins, mais derrière, en fait, c'est quand même un roman choral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, et j'avais même oublié qu'il y avait un personnage qui racontait une partie de l'histoire, son ami détenu, sa amie qu'on voit au début. Mais sinon, essentiellement, il y a elle, et il y a aussi deux hommes, c'est-à-dire qu'il y a un flic pourri qui se retrouve en prison, alors qui a été l'amant et qui a tué un tueur à gages pour le compte d'une femme qui elle-même est dans le couloir de la mort à Stoneville, dans cette prison.
On voit que c'est simple, hein, quand Philippe le raconte.
Et puis il y a un troisième personnage qu'on entend beaucoup. C'est un prof de lettres qui est fan de Dostoïevski et qui concerne la violence du monde et qui ne sait pas trop comment la gérer et qui se retrouve à devenir prof de littérature dans cette prison de femmes et qui a tendance à tomber en empathie un peu plus avec les femmes de la prison. Donc c'est vrai que ces histoires s'entrecroisent. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je trouve d'abord qu'il y a des passages qui sont fort bien écrits, qu'il y a cette empathie dont vous parliez dans un style.
C'est parce que je fais la grimace.
Dans un style rude, dans un style âpre. Et que c'est un roman radical dont le but est de démonter à la fois le système judiciaire, mais aussi social américain, de montrer, parce que tout ce que raconte l'histoire quand qu'on vit à San Francisco, dans cette ville qui paraît si cool, et dans ce Sunset District, on voit que cette femme, qui n'était pas une délinquante à la base, se retrouve prise dans une nasse, et à partir du moment où elle, comme elle faut pas, elle est sûre d'avoir ces deux perpétuités plus 6 ans, c'est l'absurdité. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le description des prisons, j'arrête là, hein, c'est que on a vraiment ce qui est démontré, ce qu'on ressent souvent quand on va aux États-Unis dans certains autres domaines, c'est cette bureaucratie, c'est-à-dire que toutes les réglementations qui s'ajoutent aux surréglementations, tout devient absurde, tout est réglementé dans la prison de façon folle. Et face à ça, on a effectivement des femmes qui sont complètement perdues dans la violence, dans la même la camaraderie, c'est tout juste. Et en face, des gardiens ou gardiennes qui savent plus très bien comment gérer, qui respectent les règlements et qui sont dans une forme de cynisme absolu parce qu'il ne reste que ça. Donc c'est un livre qui n'offre absolument, effectivement, aucun espoir. Je trouve que c'est assez gonflé de faire ça, mais voilà.
Alors, on n'a pas encore entendu Laurent Nunez nous parler de Rachel Kushner. Eh bien, c'est maintenant.
Ouais, du Mars Club, qui est le nom de la boîte de striptease.
Moi, je crois que c'était la prison.
Oui, moi aussi. Puis en fait, ils ont moins d'humour que nous. Mars, je sais pas. Je me suis dit au début que c'était le dieu de la guerre, qu'il y avait une sorte de guerre là-dedans. Mais ça colle pas encore trop. Donc je vois. Si quelqu'un a une idée, Twitter, je suis là. J'ai pas été emballé.
Ouais, pas confondre avec l'autre Laurent Nunez sur Twitter.
Non. Qui a un tilde.
Moi, j'aurais une réponse, mais je veux dire...
Il s'occupe des prisons, d'ailleurs, non ?
Ouais.
Et j'ai pas été emballé de par ce livre parce que, je sais pas, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai prononcé ce mot.
Attention.
Alors, je suis désolé, mais je trouvais ça très bien pensant. C'est-à-dire que, c'est une vraie question, est-ce que la littérature est là pour réparer le monde ? C'est la question, vous savez, c'est la question de le critique Alexandre Geffen a écrit un très bon livre il y a quelques mois sur ça. Est-ce que vraiment la littérature est là pour dénoncer les injustices? Je pose cette question sans humour ni rien, et vraiment une fresque naïvement. Et parce que si c'est ça, elle perd quelque chose d'intéressant. Elle perd un côté noir, une rugosité. Dans ce livre, tout est là pour dénoncer. Tout ce qui fonctionne pas. Il y a cette prison de femmes, il y a cette femme qui a dû tuer parce que quelqu'un qui a dû tuer pour vivre et qui a une peine absurde, deux fois la perpétuité plus 6 ans. Il y a tous ces visages qui passent là, de vie broyée. Il y a cet homme épris de littérature, comme si la littérature allait sauver la vie. Je suis désolé de dire la littérature quand on est en prison pour deux fois perpétuée plus 6 ans, je ne pense pas qu'elle serve à beaucoup. Mais vous comprenez, c'est ça ce que je dis. J'ai l'impression que c'est une sorte de ouais, moi j'ai l'impression d'être devant une sorte d'enquête de Michael Moore, peut-être presque sur.
Ça, c'est méchant.
Mais vraiment sur la pure dénonciation de la société. J'attends peut-être autre chose de la littérature.
Alors là, c'est vous qui avez lu mes notes, hein, puisque vous venez de répéter absolument tout ce que j'ai préparé sur ce livre de Rachel Kushner. Alors que je trouve à l'évidence extrêmement bien documenté. Mais c'est pas bien pensant, il a pour vocation d'être édifiant. Moi, j'attends pas d'un roman d'être édifié. Enfin, ça peut arriver, mais sous d'autres façons. Et comme je le trouve par ailleurs, contrairement à vous, pardon, Philippe Chevillier, mais pas bien écrit. Enfin, il y a pas beaucoup d'écriture, et quand il y en a, c'est pas très heureux dans les formules. Pour le coup, langage prison, je trouve que ça ne vole pas haut, parce que le problème, c'est que le registre ne change guère sur 450 pages et qu'on s'en lasse un peu. Alors, on voit bien le projet, hein, de Rachel Kushner. Et effectivement, c'est important de parler des femmes en prison, qui est vraiment un sujet très peu traité, sur les violences faites aux femmes. Effectivement, on ne sera sans doute jamais assez édifié sur les conditions d'incarcération d'une façon générale également, le système américain étant ce qu'il est, l'absurdité des peines. Alors, je me suis dit, bon, une fois qu'elle aura fait 6 ans, elle pourrait se dire, il n'y a plus que 2 fois perpétuité, si on le prend un peu à l'envers.
Vous êtes un optimiste.
Il faut bien voir les choses un petit peu comme ça. Donc, formidable enquête pour moi, mais la présentation sous la forme de roman me laisse un peu circonspect. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe Chevillier? Pas vraiment.
Pas vraiment.
Parce que sinon, vous n'auriez pas choisi
pas
de nous faire
non, parce que
livre.
D'abord, je trouve que justement, l'erreur serait de considérer qu'on ne passe tout son temps en prison parce qu'il y a énormément de flashbacks. Et que
non, mais il y en a beaucoup, mais ça décolle pas, ça reste une enquête. Enfin, comment a-t-elle vécu? Comment est-elle arrivée là?
Ces personnages, on voit la vie et sa vie est un roman d'une certaine façon. Et la vie de chaque personnage est un roman qui les amène tous en prison. Bien pensant, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'à ce moment-là, on peut prendre tous les livres qui sont sinistres, comme ou Last Exit to Brooklyn, ou je sais pas, et dire les livres. Il y a pas de bien pensance dans la mesure où il y a pas vraiment une morale à la fin. Je suis désolé, mais le personnage de Gordon, par exemple, qui est celui de le professeur, il a beau croire en la littérature, ça va pas le sauver du tout. On arrive à une impasse totale à la fin. Elle donne pas vraiment de leçons parce
non,
que
non, mais si, mais elle dénonce le système. Bah,
elle dénonce, mais le dénoncer, c'est pas la littérature peut dénoncer quand même des choses. Petite chose sur le Mars Club, je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est toujours l'opposition Mars et Vénus. Donc là, Mars, c'est les hommes, c'est un club pour hommes, l'abden, c'est tout ça, c'est tout bête. Et je pense que ça existe peut-être à San Francisco dans le Sunset, c'est le genre de pensée que peuvent avoir.
Il y a des choses bien sur San Francisco, par contre, mais il n'y en avait pas assez, je trouve.
Mais oui, on parle
bien ce qu'elle dit sur le fait que quand on est là-bas, où elle est née, on ne peut pas voir du tout la beauté de la ville et que, évidemment, en prison, c'est plus simple de s'en souvenir et d'avoir cette nostalgie. Ça, il y a des choses pas mal là-dessus.
Et je voulais dire quand même qu'il y a deux choses qui sont. Alors, peut-être. Celle de la fin que je peux pas raconter, on peut considérer que la fin paroxystique est peut-être assez convenue, mais le démarrage dans le bus où on est assailli effectivement d'informations et tout ça, c'est quand même un moment de narration que moi je trouve très réussi.
Oui, mais alors justement, moi je dirais que ça commence plutôt bien et que je trouve que ça enclenche assez peu, parce que dans le bus il y a une matière romanesque énorme entre cette fille enceinte avec il faut lui rajouter une chaîne parce qu'elle a un trop gros ventre pour avoir les menottes habituelles, enfin Grégoire Le Ménage.
Oui, je suis pas très convaincu par votre idée de bien-pensance, parce que.
Mais non. J'ai dit que j'avais honte de ce mot. Hein,
mais j'espère bien que vous en avez honte. non, mais.
Moi, j'ai parlé d'édification.
Mais non, mais c'est du Zola ce qu'elle fait. Donc on n'aime pas Zola, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes sociales, il y a un déterminisme social qui pèse évidemment sur tous ces personnages et qui fait des pires criminels aussi des victimes. Voilà. Ouais. Après, là où c'est plutôt réussi, c'est que je parlais d'empathie. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a de l'empathie, et pour autant, c'est jamais fleur bleue, c'est jamais nié, c'est jamais. Non, mais c'est jamais. Les personnages sont jamais idéalisés pour autant. On nous cache pas les horreurs qu'elles ont commises. On nous cache pas à quel point leurs corps peuvent être laids quand ils sont laids.
Non, mais je ne remets pas en cause du tout son intégrité.
Donc il y a quand même une esthétique aussi qui est tenue du début à la fin. Moi, le problème que j'ai avec ce livre, c'est vraiment un problème d'ordre technique qui est de lisibilité, d'organisation de toute cette matière. Mais bah oui, c'est embêtant. Ouais, ça m'a embêté d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai commencé par remercier Philippe Chevillier d'avoir choisi un roman aussi gros. Non, il y a vraiment un problème technique d'organisation de cette matière et de rapport entre les personnages. Et ça rend le livre vraiment difficile à lire, quoi, je trouve.
Dernier mot, Laurent Nunez, peut-être?
Ouais, je suis obligé de rebondir quand j'entends que, quand Grégoire dit que ça ressemble à du Zola. Non, vous savez bien que Zola métaphorise. La bête humaine, c'est une locomotive. La scène, l'alambic transfiguré par Zola. Ici, on est vraiment à ras de terre. La prison, c'est hélas une prison sale, dégueulasse, infâme.
Bah oui, je pense pas que la prison elle soit autre chose qu'un femme. Enfin, je veux dire, c'est le parti pris. En même temps, il y a par exemple, le simple fait de cette évocation de Romy Schneider, il y a le fait qu'elle ait donné le nom de Romy à sa fille. Il y a de temps en temps des petites ouvertures comme ça. On est sur des digressions. Les personnages, ils existent, ils ont une histoire. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que les personnages, on les suit jusqu'au bout. Et même peut-être pas la fille enceinte, mais il y en a beaucoup qu'on ne fait que voir et dont on raconte la vie. Et c'est moi, c'est réaliste, c'est hyper réaliste, mais c'est intéressant parce que c'est une sorte de rouleau compresseur, mais qui a une force.
Mais pour rejoindre Grégoire Le Ménager, je dirais que le problème, c'est qu'elle veuille faire roman de sa matière, parce que à l'évidence, et puis elle l'a dit, j'ai lu un ou deux entretiens, que c'est très directement inspiré de personnes tout à fait réelles. Il y a parfois des combinaisons sans doute de plusieurs personnes, mais là où ça coince pour moi aussi, c'est dans cette façon, au sens de faire ce roman. Mais si vous avez un peu de temps devant vous, lisez par vous-même le Mars Club. C'est comme ça que vous aurez un avis sur ce livre de Rachel Kushner paru chez Stock dans une traduction de Sylvie Schnetter. C'est le moment du coup de cœur de Grégoire Le Ménager pour Chronique de Floréal, 1922-1923, de Louis Guillou chez Héros Limite.
Oui, oui, alors je ne sais pas très bien ce qu'est Héros Limite, mais ce recueil de chroniques assez délicieusement éclectique est le livre d'un, je trouvais ça bien, de parler d'un jeune auteur qui débute. Hein, c'est un auteur qui a une vingtaine d'années, qui n'a pas fait de grandes études, qui arrive à Paris, de Bretagne. Cet auteur, il s'appelle Louis Guillou, il est né à Saint-Brieuc en 1899. Et au moment où il écrit ça, évidemment, en...
Vous avez dit quoi ? 22-23,
pardon. Ce n'est pas encore le génial romancier du sang noir, qu'il faut absolument lire bien avant de lire ses chroniques de Floréal. C'est même pas encore celui de La Maison du Peuple, qui va publier en 1927 et qu'Albert Camus admirait tant. Là, on est en 22-23, et ce petit provincial qui est monté à Paris, il écrit pour Floréal, qui est, nous rappelle l'excellente préface d'Éric Dussert, l'hebdomadaire illustré du monde du travail à l'époque. Donc apparemment, je connais pas ce journal, je ne l'ai jamais eu entre les mains, mais c'était assez élégant, c'était illustré. Et Guillou, on le voit, qui fait ses gammes, qui apprend à écrire. Alors il nous parle à la fois il essaye de nous expliquer les théories d'Einstein de l'époque, il essaye de nous expliquer les concepts de la psychanalyse qui commencent à arriver en France. Il nous parle du cinéma, il lance même un appel à témoignage au lecteur. Il fait du journalisme participatif, comme on en fait aujourd'hui beaucoup. Il nous parle de Versailles, et il nous parle du 14 juillet. Moi, c'est un des passages, une des chroniques que je préfère. Il nous raconte le 14 juillet qu'il a vécu en Bretagne, le premier 14 juillet d'après la Première Guerre mondiale.
En 19, sans doute.
Voilà. Et donc, il retrouve à la fois l'ambiance festive qu'il y avait dans les 14 juillet de son enfance, et en même temps, quelque chose a changé. Et c'est très bouleversant et très émouvant. Il parle du tourisme avec des formules. Le tourisme est une excellente invention des Anglais qui n'a qu'un défaut à mes yeux, mais grave. Celui de ne pas être un sport individuel, mais un sport collectif. Et il évoque un peu le Saint-Brieuc, qui sera le décor de toute son œuvre après, une petite ville de Bretagne, à laquelle je ne fais d'autres reproches que ceux d'être un peu trop petite et d'être ma ville natale. Et il y a beaucoup de curiosité chez ce jeune homme. Il y a une forme de légèreté aussi qui est assez étonnante quand on sait ce qu'il écrira après et qu'il faut lire. Là, on n'est pas loin de La Fausse Désinvolture de Léon-Paul Fargue par moment. Il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, chez ce fils de cordonnier qui est là, qui découvre Paris, qui se cherche et qui apprend à écrire et qui deviendra un grand écrivain qui est beaucoup trop méconnu aujourd'hui.
Ben, vous nous donnez envie de lire Chronique de Floréal, 1922-1923 de Louis Guillou chez Héros Limite.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier sujet de cette dispute littérature, c'est 2m10 de Jean Hatzfeld chez Gallimard, l'ancien grand reporter qui a quitté le journalisme après le génocide au Rwanda, qu'il estimait comme tant d'autres avoir pas couvert comme il l'aurait dû. Jean Hatzfeld a livré sur le pays africain une série de livres extrêmement forts, impressionnants, qui ont permis à beaucoup, dont moi, de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se passe encore aujourd'hui dans ce pays. Avec ce nouveau livre, 2m10, c'est une autre veine de son écriture qui est mobilisée, celle des grands récits qui prennent des sportifs pour personnages. Dans Où en est la nuit, c'était un champion éthiopien du marathon qui devenait soldat. Dans Robert Mitchum ne revient pas, il s'agissait de deux champions de tir nés à Sarajevo. L'une serbe, l'autre homme musulman enrôlé dans leur camp respectif au moment de la guerre. Cette fois, quatre athlètes de l'époque de la fin de la guerre froide que l'écrivain va suivre et donc nous avec. Chère Suzanne, je m'appelle Tatiana Alimkul, mais tu m'as connue sous mon nom russe, Tatiana Izivskaya. Peut-être te souviens-tu, nous nous sommes rencontrés à Helsinki en 1982. Un journaliste français est venu la semaine dernière pour me poser un tas de questions. Il voulait tout savoir sur cette époque. C'est lui qui m'a rappelé ce concours d'Helsinki. Il y avait assisté et m'a demandé une foule insensée de détails. Il s'imaginait que j'y pensais chaque matin. J'espère que tu n'en gardes pas un mauvais souvenir et que cette lettre ne réveille pas des sentiments désagréables. Nous avons donc parlé de la dernière barre, de l'orage et de toi, beaucoup de toi bien sûr. Ce journalisme m'a parlé des soucis et des difficultés que tu affrontes depuis quelques années.
J'ai abandonné le monde de l'athlétisme depuis longtemps. Je suis retourné chez moi au Kirghizistan. C'est un petit pays inconnu. Je vis dans une maison en bois, peinte en bleu. Dans la rue, d'autres maisons sont rouges ou vertes. Elle se trouve dans un village en montagne. Il fait très froid l'hiver, le blanc s'accorde au paysage. L'été, les journées sont chaudes et en cette saison, les arbres se parent de belles couleurs. Une rivière coule dans le village. Nous aimons cette rivière. Il y a un lac plus haut, on s'y baigne en été. Partout autour, des dizaines de milliers de chevaux et de moutons. Les chevaux sont de bonne compagnie en période chahutée, nous moutons aussi, crois-moi. La montagne te voudrait du bien. Une chambre t'attend. Elle est meublée de tapis de chez nous et de jolies étoffes. Elle donne sur un jardin. Il est enfoui car je jardine mal. Les fleurs se disputent tant elles s'y plaisent. Ça me ferait plaisir que tu viennes le temps que tu veux. On se promènera. On parlera seulement de ce que tu veux. Laurent Nunez a compris que c'était lui qui allait commencer à parler de Jean Hatzfeld.
Oui, c'est vrai, tu vas faire déduction, quelle logique.
Implacable.
J'ai failli être très déçu par ce livre.
C'est pas mal comme début.
Et vous savez bien que la suite de la phrase, ouais, ouais. Et donc finalement...
Et c'était pire que
genre,
ça.
Non, j'en suis reparti, ou en tout cas j'ai fermé le livre assez épaté. Assez déçu parce que, au début, initialement, parce que je me suis dit, où est la nouveauté là? Il y a deux femmes sportives, qui anciennes sportives et que la vie a chahuté, on va dire ça. Ouais. Deux garçons, pour l'haltérophilie cette fois, alors que les autres c'était pour le saut en hauteur. Deux garçons de deux pays que tout oppose, que la vie a chahuté. Un flashback, la preuve que, enfin, le retour à la guerre froide, la preuve que le sport, c'est comme la géographie, ça sert aussi à faire la guerre. Je me suis dit presque le what's new.
Vous parlez anglais à vous-même.
Oui, pas quoi.
D'accord.
C'est vraiment.
Quoi de neuf, hein, je traduis quand même.
Mais c'est peut-être parce que vous savez, ça dépend de ce qu'on lit tout autour. Et là, je sortais d'un livre du Divry sur le futur, etc. Et là, je me suis dit, zut, encore un livre sur sur les sportifs qui s'opposent pendant la guerre froide. Et j'ai l'impression d'avoir vu ça partout, dans les films, etc. Et puis, en fait...
Je sais pas ce que vous lisez ou vous regardez comme film, enfin, on en donnera une liste une autre fois.
Bon, ça vous dit rien?
Si, mais enfin, pas tant que ça non plus.
Je crois même qu'il y a des Rocky sur ça.
Allez, au fait.
Enfin, au fait, c'est très bien. Au fait, il y a une façon, chez Jean Hatzfeld, de raconter le sport, qui vient évidemment, qui est une très belle déformation journalistique, une façon...
Il a créé la rubrique sport à Libération, notamment.
Qui est, vous savez, c'est ce qui est, et j'étais emballé à chaque fois parce que ça sent pas du tout la note. Ce que je crains le pire à chaque fois, c'est que c'est dans un roman où on a l'impression que le gars, quand il raconte la découverte du Fosbury, bah, il est à côté, il a Wikipédia à côté. Ici, pas du tout, ça coule de source. C'est vraiment brillant. Quand les filles sautent, l'américaine ou la kirghize, si vous voulez, voilà, on a l'impression de les voir. Quand ces garçons essaient de soulever de plus en plus de poids, ça marche. Il y a aussi comme cliché, c'est vrai, j'ai oublié le dopage. Voilà, c'est vrai. Mais en tout cas,
bon,
voilà,
ça s'est vite réglé. Elles étaient toutes les deux chargées comme des mules.
Voilà,
se souviennent-elles?
Vous voyez, c'est ça. Je pensais que, comme ces filles qui essayent à chaque fois de sauter plus haut, ces garçons de soulever plus lourd, que ça allait pas passer. Et en fait, ça passe très très bien. Jusque même le titre, il faut expliquer le titre quand même. 2m10, c'est l'utopie. C'est l'idéal puisque,
pour une femme,
voilà, pour les femmes,
en hauteur.
Sans hauteur, le maximum c'est 2m9, depuis 30 ou 40 ans. Et voilà, personne n'a jamais atteint 2m10 et c'est ce que ces filles vont essayer de faire. Et 2m10, ce serait, ce qui est beau, c'est un livre sur l'idéal. Comment on fait pour atteindre l'idéal et bêtement s'opposer alors qu'en fait on cherche le même but.
Grégoire Leménager, à présent, c'est vous qui avez proposé ce livre à notre lecture.
Oui, j'ai proposé ce livre parce que Jean Hatzfeld est un des écrivains français que je vénère le plus pour ses livres sur le Rwanda. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté d'écrire des dialogues. Quand on lit ses livres sur le Rwanda, on voit ce que c'est que le travail stylistique qui permet de faire entendre des voix. Et je n'avais jamais lu ses romans. Je me suis dit, c'est une bonne occasion de lire un roman de Jean Hatzfeld. Donc on y va. On va aux Jeux Olympiques, et moi j'ai trouvé ce livre très, très
très beau pour mille raisons. Assez très émouvant parce que je trouve que les retrouvailles de ces deux filles, vous dites le sport servait à se faire la guerre, bah pas pour elles, pas pour ces sportifs.
On sent toute la camaraderie
qu'il y avait entre elles à l'époque.
C'est pour les présidents.
Elles se retrouvent 20 ans après, elles ont été complètement bousillées par par la vie, la starisation de l'une aux États-Unis, les mariages absurdes de l'autre en URSS et tout ça. Et il y a des choses très émouvantes dans ce regard qu'elles portent sur leur jeunesse. Je suis moins sensible aux histoires d'haltérophiles, mais
elles prennent beaucoup
moins de place. Mais les deux filles sont par moments vraiment bouleversante. Il y a des choses drôles aussi, parce que l'histoire du dopage, franchement, quand elle se retrouve 20 ans après, qu'elle se demande, alors toi, vos pilules, elles étaient bleues ou grises? L'autre répond, aux États-Unis, démocratie oblige, elles sont toutes blanches. Et comme ça, elles se rendent compte qu'elles ont vécu les mêmes choses. La Kirghize qui raconte qu'il s'exerçait au Flop Fosbury en cachette, comme des comploteuses anarchistes, parce que ça venait d'Amérique, donc ça devait rester clandestin. Il y a plein de petites choses très, très, très belles, comme ça. Après, je redeviens chafouin. Je trouve que le récit flotte un peu. Simon a un problème avec les formes de puzzle narratif aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'aime bien ça, mais là, je trouve que les allers-retours dans le temps, le passage d'un personnage à un autre et tout ça, c'est pas toujours hyper serré, quoi, vissé. J'aurais aimé que ça, peut-être que ça soit plus rythmé. Ouais. Mais bon, le Hatzfeld reste champion
de
la prose souple, sensible, qui avance en petite foulée comme ça. Donc ça se lit avec beaucoup d'intérêt et parfois d'émotion même.
C'est vrai que j'aurais davantage resté plus sur les femmes peut-être, par ailleurs, c'est une scène qui concerne les hommes qui est une des plus poignantes quand même du livre. Donc je comprends qu'il ait eu envie de parler des deux. Philippe Chevillier, votre regard sur 2m10.
Je ne serai pas chafouin pour terminer. J'ai beaucoup aimé ce livre, que c'est un beau roman de journaliste, une belle fable héroïque avec les héros des temps modernes qui sont des sportifs et qui ne sont pas des sportifs avec l'image. Alors pour le coup, il y a forcément des références qu'on connaît sur les sportifs, mais pas le côté bling-bling et tout ça, le côté on échappe
c'était,
à ça.
C'était pas l'époque en même temps.
C'était pas l'époque. Alors une belle variation aussi sur la compétition sauvage Est-Ouest qui prenait une forme sportive, mais qui est vraiment très très bien décrite, avec beaucoup de force. Au passage, une belle mise en abîme du système soviétique avec l'élimination de toute contestation, puisqu'un des haltérophiles se retrouve complètement, quasiment éliminé parce que il a manifesté ses préférences nationalistes, la Kirghize, la mise au rebut des vieilles gloires, même ce moment un peu absurde où la nouvelle technique du saut qu'ils veulent pas l'apprendre parce qu'elle a été trouvée par les Américains. Mais évidemment, ce qui est le plus fort, c'est cette belle histoire d'amitié féminine. Qui en plus a une dimension poétique. C'est vrai qu'on le ressent, ce lieu. Il a un peu, c'est aussi un petit Éden comme il y avait dans le livre. C'est un peu différent, mais moi j'aime bien tout d'un coup ces moments où on se retrouve presque confortable dans un livre malgré toute la fragilité des personnages, malgré leur douleur. Et finalement, j'ai eu la même sensation sur
la campagne, quoi.
La sensation que j'ai eue aussi, c'est qu'on est un peu, on reste un peu sur notre faim avec les haltérophiles, mais en même temps, ce qui est assez beau, c'est justement d'avoir en comparaison cette histoire entre les femmes qui peut justement se développer, s'étendre, alors que finalement les deux hommes n'ont pas eu le temps d'avoir cette parce que la tragédie des événements et du sport et de l'histoire a fait qu'ils n'ont pas pu communiquer comme ils voudraient. Et donc, c'est justement que la scène soit courte et assez brutale. Je trouve que c'est une belle opposition. Donc, voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touché.
Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a cette rencontre véritablement entre les deux femmes et cette façon qu'a Tatiana de veiller sur le sommeil de son ancienne concurrente. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sommeil dessous? Enfin, il y a quand même beaucoup de profondeur, comme toujours, chez Jean Hatzfeld. Et puis pour le point d'information, donc le record du monde féminin, c'est une Bulgare, et là je ne sais pas si elle était chargée, un saut à 2m09 en 1987 à Rome, donc 31 ans pour ce record, qui doit être douteux, comme à peu près tous les records d'athlétisme au fil du temps.
Oui, parce que là, il arrive à nous faire croire que tout est vrai.
Oui,
c'est ça qui est fort.
C'est un roman.
On croit vraiment qu'elles ont sauté 2m10 en 1982.
2m7.
2m7. 2m7, pardon.
Justement, elles n'y arriveront jamais.
Non, mais c'est vrai que le récit du concours est extraordinaire. On y croirait, c'est tout faux. C'est Jean Hatzfeld, c'est 2m10 chez Gallimard. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion qui nous a rejoint, qui va tout d'abord sauter en hauteur, 2m10. Sarah Dion s'élance, elle quitte le sol. Non, elle va nous rappeler la question du jeudi hier soir et nous donner sa réponse, Sarah.
Qui est l'auteur du roman Les âmes mortes, paru en 1842?
La réponse est... Est-ce que les critiques littéraires autour de cette table savent? Non, mais je plaisante.
Nicolas Gogol.
Ce soir, des places à gagner pour Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, version restaurée, nouvelle sortie en salle. La question est...
Qui est le comédien interrompu dès sa première tirade par Cyrano de Bergerac au début du texte?
On ne fera pas l'affront de demander, tout en que c'est le jeu pour les auditeurs et auditrices. Hein. Votre réponse, vous nous l'envoyez par courriel. Vous nous indiquez évidemment votre réponse et les coordonnées postales. Tout ça à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez retrouver et réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, ce sera une dispute cinéma, en direct en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Nous serons avec Florence Colombani, Philippe Azoré et Antoine Guillot. À notre affiche Cold War, on n'en sort pas, de Pavel Palikowski. Halloween, on n'en sort pas non plus, de David Gordon Green. L'envers d'une histoire, là c'est la Bulgarie, le film de Mila Turajlik. Il y aura un coup de cœur, signé Florence Colombani, pour la rétrospective Jean-Paul Rapneau à la Cinémathèque française.